si les Italiens continuent de s'endetter, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, le taux d'intérêt augmente et tout euro consacré au remboursement de la dette, il ne faut pas que les Italiens se trompent, est un euro en moins pour nos autoroutes, un euro en moins pour l'éducation, un euro en moins pour la justice sociale. Ce n'est pas un bureaucrate de Bruxelles qui parle là. Quand on est endetté, on est ferré. C'est toujours le peuple qui paye à la fin.
Ainsi parle le commissaire européen Pierre Moscovici. Est-ce la voix du bon sens ou celle du gardien des totems bruxellois? 3% de déficit, 60% de dette publique. Basta les totems. En Italie, les promesses de la coalition populiste sont censées plaire à la carpe comme au lapin et fatalement, ça coûte cher. Nous expliquerons au marché, dit le chef de file des 5 étoiles. C'est là que ça va devenir intéressant. La dette italienne est à 130%. Le gouvernement n'a pas l'intention d'économiser, il a l'intention de dépenser. Que faudrait-il encore expliquer que les marchés n'auraient pas compris? Que peuvent-ils accepter? Pour l'heure, la bourse, les banques ont encaissé le choc. On a recommencé à parler du spread, vous savez, ce taux d'intérêt qui augmente avec le risque. Et sans doute, bientôt, entendra-t-on les mots « agence de notation, dégradation ». Et que va faire Bruxelles provoquée par Rome? Ça aussi, ce sera intéressant, particulièrement pour nous Français, qui aurons, en 2019, aussi et encore notre carton jaune avec notre budget, avec notre dette. Les Français, ces autres mauvais élèves de l'Europe, pour sûr, mais à la différence des Italiens, pas ouvertement frondeurs.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est le magazine de l'économie, ça, c'est jusqu'à 10h que nous sommes ensemble. Le réalisateur s'appelle Coy Nguyen, l'attaché de production Valentin Pérez et ce matin à la technique c'est Julien Dumont qui nous accompagne. À l'ONU, il a encore tout assumé, le président américain. Il piétine les accords commerciaux, il taxe la Chine, il cloue au pilori l'OMC. Et si Trump avait raison, ce sera le débat. Bonjour Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques.
Bonjour.
Emmanuel Le Chypre de BFM Business, bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Emmanuel, l'Italie, je vous demandais là, si Trump avait raison, mais j'ai envie de vous demander, et si les Italiens avaient raison?
Bah, les Italiens, en tout cas, ils ont voté. Ils ont choisi un programme. Et je trouve absurde que, à peine ce programme dévoilé, on leur tombe dessus en leur disant « c'est pas possible ». Il faut bien comprendre que si les gens n'aiment plus l'Europe aujourd'hui, c'est bien parce que l'Europe donne l'impression qu'elle empêche de tout faire. Et je trouve que, finalement, ce gouvernement italien passe un peu au-delà des injonctions de Bruxelles et essaye de faire le programme pour lequel il a été élu, et qui est pas un programme totalement délirant. Oui, il y a un revenu minimum qui est prévu, mais après tout, on va voir, c'est une expérience intéressante.
On nous dit que c'est... Alors, on qu'est-ce entend, c'est n'importe quoi.
Après... Non, c'est pas n'importe
c'est
quoi.
C'est du populisme.
Ah, bah, c'est pas n'importe
quoi. Ce sont
après,
des dépenses publiques majeures.
Non, après, il y a des baisses d'impôts. Il y a des baisses d'impôts pour les PME, pour leur redonner de la compétitivité. Laissons la chance à ce budget italien, sachant que sur le plan des finances publiques, ils sont quand même dans une situation qui est pas si catastrophique que ça, puisque je rappelle qu'ils ont hors charge de la dette un budget qui est excédentaire. Donc, l'équilibre au quotidien des dépenses et des recettes est bien meilleur qu'en France. Donc, non, il faut laisser la chance à ce budget italien.
Allez, grosse page éco également dans le Mag Éco à quelques jours du mondial. La filière automobile est un poids lourd de l'industrie française et elle est en transition. Il ne faut pas rater le virage de l'électrique, il ne faut pas rater la voiture autonome. Et le diesel, est-ce qu'il est condamné? Vous entendrez le reportage de Dila Tebi. Et puis l'invité du Mag Éco ce matin, ce sera le patron de PSA, Carlos Tavares, interview vers 9h45. Sandrine Foulon, bonjour.
Bonjour Alexandra.
Sandrine, c'est Simon qui vous a écrit.
Oui, Simon est ingénieur, il réagit à la dégressivité des allocations au chômage pour les cadres. Doit-on toucher moins quand on est qualifié?
Ma vie au boulot juste avant 10h. Tout de suite, le viatique de survie dans le monde selon Trump.
25 septembre 2018, 73e sommet de l'ONU à New York.
America is governed. Les États-Unis sont gouvernés.
Donald Trump.
By America.
Par les Américains.
Président des États-Unis.
We reject the ideology. Nous rejetons l'idéologie du mondialisme. Et nous nous approprions la doctrine du patriotisme.
Je sais que défendre la coopération et le multilatéralisme peut ne plus être à la mode.
Emmanuel Macron.
Alors ne soyons pas à la mode.
Président de la République française.
Parce que nous sommes en train aujourd'hui de voir se déliter ce droit international, toutes les formes de coopération, comme si de rien n'était, par peur, par complicité, parce que ça fait bien. Non ! Moi je ne m'y résous pas !
Passager clandestin.
Pierre Grosser.
C'est un terme qui est utilisé très souvent par M. Trump.
Historien.
c'est-à-dire des gens qui profitent de votre puissance, parce qu'évidemment, dans ce système multilatéral, ces organisations multilatérales, il y a bien quelqu'un qui paye. Et les Américains ont souvent l'impression de payer plus, que ça soit dans l'OTAN, que ça soit à l'ONU ou que ça soit ailleurs.
Il prend des mesures de rétorsion.
Pascal Lamy.
Ou d'augmentation des restrictions aux échanges.
Ancien président de l'OMC.
Pour au fond, on ne sait pas très bien quoi. On ne sait pas très bien s'il veut démolir le système multilatéral qui a été construit depuis 70 ans. Ou est-ce que simplement c'est une tactique pour secouer l'adversaire? Est-ce que son objectif c'est de démolir le système ou est-ce que c'est de l'améliorer?
La politique économique est menée de façon conjointe avec la politique commerciale.
Mathilde Lemoine.
Ça marche.
Chef économiste du groupe Philippe de Rothschild.
Les premiers chiffres montrent que la taille de l'appareil de production américain a augmenté de près de 2% depuis un an. Et parallèlement, les États-Unis veulent regagner en termes de leadership économique.
Les produits importés de Chine vont être évidemment...
Nicole Bacharan.
Plus cher.
Politologue, spécialiste des États-Unis.
Il y a une vraie inquiétude aux États-Unis sur justement le ralentissement de la croissance. Et la guerre commerciale de Donald Trump, elle est en train d'être mise en place. Mais les conséquences ne sont pas encore là. Il se peut très bien qu'il y ait un effet domino tout à fait négatif.
Là, il est en train de défendre l'économie américaine contre la Chine.
Philippe Dessertine.
Effectivement, ça affaiblit les exportations chinoises.
Économiste.
En réalité, il donne le pouvoir à la Chine. Quand les États-Unis sont en retrait partout, fondamentalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la Chine qui avance ses pions.
Christian Chavagneux, avant la rentrée, nous traitions des menaces de Donald Trump. Là, on parle carrément de guerre commerciale. Est-ce que depuis la rentrée, Donald Trump nous a fait basculer dans un monde nouveau ?
Non, je crois pas. Qu'est-ce qu'il fait Donald Trump ? D'abord, c'est la priorité donnée au territoire économique national. Honnêtement, avant Trump, quand les Américains laissent tous les produits financiers toxiques se développer, c'est parce que ça sert à la rentabilité de leurs banques. Quand la Chine suit une politique mercantiliste de remontée de filières progressives, industrielles, pour faire beaucoup d'exportations tout en contrôlant ses importations, elle donne la priorité à son territoire national. L'Allemagne au début des années 2000 qui nous fait du dumping social, salarial pour piquer des parts de marché à l'ensemble des autres pays européens. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre que du Trumpisme entre guillemets que te donner la priorité à son territoire national? Il y a que l'Union européenne en gros qui est l'idiote du village mondial en disant bah nous on est ouvert à tout le monde et puis si les autres s'ouvrent pas tant mieux parce que par principe être ouvert c'est bien. Donc voyez, tous les autres pays l'ont fait avant Trump. Alors là on rentre dans un outil particulier de donner l'avantage pour donner l'avantage à son territoire national, le protectionnisme. Honnêtement, le protectionnisme, il y a 10 jours, j'étais à une conférence d'un historien économiste qui s'appelait Pierre Dequesse. Il rappelait la chose suivante, que je trouve vraiment intelligente. Dans le monde, depuis le 18e siècle, il y a toujours eu des alternances de phases entre libre-échange et protectionnisme. Et quand est-ce que ça bascule? C'est quand il y a des excès. Dans les années 30, il y a des excès de protectionnisme. Alors, après la guerre, on revient au libre-échange. Maintenant, on est dans les excès du libre-échange. Tout le monde le dit maintenant. Les grands économistes américains, les grands économistes français.
La croissance des inégalités.
La croissance des inégalités, les tissus sociaux qui ont été repris, l'instabilité financière. On est dans les excès de la mondialisation, on revient un peu dans le cycle, d'un peu plus de protectionnisme. Mais honnêtement, la démondialisation, elle a commencé avant Trump.
Emmanuel Lechypre, est-ce que vous êtes d'accord? Trump, finalement, alors, il a un style particulier, mais il nous fait basculer dans un cycle qu'on a déjà connu.
Sur la puissance des grands cycles et la façon dont s'entremêlent les cycles économiques, les cycles politiques, les cycles même moraux et sociétaux. Hein, effectivement, la séquence qu'on voit, on l'a déjà connue dans les années 30, Christian l'a dit.
Et au 19e siècle.
Au 19e siècle, c'était toujours pareil. Vague d'innovation spectaculaire, excès financier, crise financière, montée des inégalités, repli sur soi. Donc ça, c'est un cycle classique. Moi, ce qui me paraît vraiment nouveau, et donc je pense quand même qu'on bascule dans un nouveau monde, c'est le retrait des États-Unis de l'ordre mondial. Cette espèce de fatigue qu'on sent des Américains d'assumer le leadership mondial.
Enfin, est-ce qu'ils sont fatigués ou est-ce que juste ils ne veulent plus payer?
Mais payer quoi? Ils ne veulent plus être les leaders du monde. Et là, on revient à ce qu'étaient les États-Unis, d'ailleurs, avant la Première Guerre mondiale. Finalement, cette parenthèse des États-Unis maîtres du monde, ça n'a duré que l'espace de l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre, surtout de l'après-guerre. Ah, là, les États-Unis veulent se... Et on entre dans un nouvel ordre qui, pour moi, va rester un ordre multilatéral, mais avec des centres de gravité qui vont se déplacer considérablement vers la Chine. La Chine est profondément, aujourd'hui, multilatéraliste. Et l'Europe aussi. Et donc, ce sont les États-Unis qui se retirent. Rappelons-le, une économie américaine qui, hormis sur l'aspect financier, reste un nain sur le plan des échanges, de l'industrie, etc. Hormis oubliez l'espèce d'éblouissement provoqué par la Silicon Valley, le reste de l'économie américaine est assez faible. Donc moi, je pense qu'il y a un nouvel ordre mondial qui est toujours multilatéral, mais dominé par la Chine et plus par les États-Unis qui se replient sur eux-mêmes.
Christian, vous n'êtes pas d'accord?
Non, ça c'est la légende de l'hégémonie perdue de l'économie américaine, pas du tout. Vous prenez qui est-ce qui détermine le plus, qu'est-ce qui influence le plus dans la mondialisation, où est-ce qu'on va produire les choses? Vous prenez les plus grandes multinationales du monde dans beaucoup de secteurs. Oui, dans les années 80-90, il y avait des japonaises. Oui, aujourd'hui, il y a des chinoises, mais dans la majorité des grands secteurs qui comptent, le divertissement, la pharmacie, etc., le traitement des données, c'est des boîtes américaines. La finance mondiale, qui est capable de dire qui va avoir combien d'argent avec quel taux d'intérêt, quel crédit? Vous avez une banque moyenne américaine qui fait faillite, ça fait exploser le système bancaire mondial. Demain, il y a une banque chinoise qui est la première banque mondiale qui va faire faillite, ça fera pas ça, etc., etc. Je pense que c'est une légende de l'hégémonie perdue. Les États-Unis sont toujours très puissants dans le monde.
Moi, j'aimerais savoir si Trump a raison ou tort. C'était ça le sujet du débat. C'est Trump dit la Chine ne joue pas le jeu, la Chine empêche veut les marchés mais nous empêche de pénétrer le leur, la Chine nous submerge de ses exportations et on y perd. Et d'ailleurs, enfin, je veux dire, disant est-ce que Trump a raison ou tort, je me dis est-ce que l'Europe, mais Christian a déjà un peu répondu, est-ce que l'Europe n'aimerait pas bien faire ou n'aurait pas dû faire ce que fait Trump? Bah, Emmanuel.
Christian.
Celle-là, elle est pour les archives. Hein. Celle-là, on la garde. Merci.
Non, je crois que... Est-ce que les États-Unis sont défavorisés dans le commerce mondial aujourd'hui? Je vous renvoie, parce que je j'aime pas piller les idées des autres. Il y a une très bonne étude de Xerfi, une très bonne synthèse de Xerfi qui est sortie, qui dit, si vous regardez l'aspect purement sur les droits, les tarifaires, les tarifs douaniers, aujourd'hui, clairement, vous avez un bloc de pays émergents qui surprotège son pays, et dans les autres pays, pays occidentaux, on est à peu près identique. Après, chaque pays cible sur des critères différents. Après, c'est vrai que les pays comme les États-Unis et l'Europe ont développé des barrières non tarifaires. Mais là-dessus, on peut pas dire que les Américains soient extrêmement défavorisés. Après, est-ce qu'il a raison de dire que le protectionnisme fait du bien à l'économie américaine? Encore une fois, non, non et non. Dans la mesure où 80% des produits consommés par les Américains aujourd'hui ne sont plus fabriqués aux États-Unis, eh bien, vous pénalisez directement les consommateurs américains. Ford vous dit une voiture, ça coûte 500 euros de plus aujourd'hui parce qu'il y a du protectionnisme sur l'acier, les canettes de Coca, etc. Donc, il est en train, au contraire, de détruire l'économie traditionnelle américaine qui déjà était sous-compétitive, contrairement à ce que dit Christian. Parce que pourquoi la Chine a aujourd'hui des problèmes pour sanctionner les États-Unis? C'est que simplement, les États-Unis n'ont rien à vendre à la Chine. À part quelques matières premières agricoles.
C'est un gros pays, donc il exporte peu, il est peu ouvert. Mais j'étais avec Patrick Artus, qui rencontrait des journalistes.
Économiste Natixis.
Et donc, je lui pose la question, est-ce que c'est grave un peu toute cette montée des tensions et ce protectionnisme? Réponse d'Artus, c'est un non-événement total. Alors, Emmanuel vient de nous dresser un début de tableau apocalyptique du protectionnisme. Pourquoi est-ce qu'il répond ça à l'économiste? Deux raisons. Les mesures actuelles, je viens de le dire, l'économie américaine, elle est énorme sur son marché intérieur, donc elle est en fait peu intégrée dans l'économie mondiale. Les mesures actuelles protectionnistes entre les États-Unis, l'Europe, la Chine, le Canada, le Mexique, c'est 12% des importations américaines seulement. Les mesures de rétorsion des partenaires commerciaux américains, ça touche 8% des exportations américaines. C'est tout petit. Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe? Trump, en montant les droits de douane, il prend du pouvoir d'achat aux gens. Mais qu'est-ce qu'il en fait de ce pouvoir d'achat? Il le redistribue dans l'économie américaine. Par exemple, les Chinois ont pris des mesures de rétorsion contre les produits agricoles, les exportations agricoles américaines. Qu'a fait Trump? Il donne 12 milliards de subventions aux agriculteurs américains. Il fait de la dépense publique, il fait de la baisse d'impôts. Donc tous les droits de douane, tout le pouvoir d'achat qui a été piqué par les droits de douane, il le remet dans l'économie américaine. Du coup, ça aura très peu d'effet. Et attends, juste finir, parce que je vais vous surprendre. J'ai relu... évidemment, on veut comparer avec les années 30. J'ai relu Schumpeter, le grand économiste, d'accord? Et il dit quoi, Schumpeter? Le protectionnisme des années 30, ça a fait peu de choses sur le commerce mondial. Je relis Arthur Lewis, qui a un prix de la Banque de Sud en économie, qui a fait un magnifique petit livre sur les années 30. Il nous dit quoi? Le protectionnisme, ça joue peu. Krugman nous dit les effets du protectionnisme américain, ça va peu jouer. Susan Strange, l'américaine, qui nous dit la britannique, qui nous dit la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé en fait des années 30? Les économies se sont effondrées. Et parce que les économies se sont effondrées, il y a eu moins de commerce. Le protectionnisme est venu après. Peut-être qu'il a empêché la reprise, mais il n'a pas provoqué la crise. Et ce que nous dit Strange, c'est qu'entre la baisse de la croissance dans les années 30, le manque de financement pour financer le commerce, c'est ça qui a joué et pas les politiques protectionnistes des États. On surévalue les effets macroéconomiques du protectionnisme.
Allez-y Emmanuel, et puis moi je voudrais quand même parler du Nobel Phelps qui a dit que les États-Unis allaient peut-être avoir une récession d'ici un an.
Ce que dit Christian est fondamental. Il y a une légende légende de le protectionnisme a créé la Grande Dépression des années 30.
Exactement.
Et c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a un autre élément quand même qui fait que c'est idiot de faire du protectionnisme. Et là, on a un argument qui est quand même plus majeur, développé toujours par Patrick Artus que Christian a rencontré cette semaine.
Bonjour Patrick.
Patrick, il nous dit quoi s'il nous écoute? Il nous dit finalement, chaque fois que les États-Unis imposent des droits de douane sur les importations depuis un pays, la monnaie de ce pays se déprécie fortement. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que finalement, parce que les capitaux sortent, et donc il se passe quoi? Bah, vous avez beau mettre des droits de douane sur les produits d'un pays qui vient d'Asie, vu que la monnaie de ce pays se déprécie fortement, bah, il reste toujours compétitif. Et donc ça ne sert à rien de mettre des droits de douane. Non, le vrai sujet derrière tout ça, c'est quelle est la vraie ambition de Trump? C'est d'empêcher la Chine à tout prix de devenir la grande puissance économique de demain et de freiner son ascension technologique. Hein. Il faut rappeler que l'obsession des Américains, c'est le plan China 2025 que les Chinois ont mis en place pour développer les nouvelles technologies, et la bataille globale, c'est sur l'hégémonie technologique. Hein, regardez, vous avez les quatre GAFA, vous avez les quatre en miroir chinois, il n'y a pas l'Europe au milieu, et Trump, c'est ça qui l'angoisse.
Est-ce qu'il peut y arriver?
Moi, pour moi, non. Pour moi, c'est foutu.
Il leur met des cailloux dans leurs chaussures, mais il peut pas les freiner.
Parce qu'à terme, vous savez, il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Il y a eu une parenthèse historique de 3 siècles où on a eu la révolution industrielle et où la richesse était chez nous. Mais quand vous égalisez les niveaux de performance de chaque individu dans le monde, que le Chinois il devient aussi efficace, aussi instruit et aussi productif, eh ben il y a pas de secret. Votre poids dans l'économie mondiale doit correspondre à votre poids dans la population mondiale. Or aujourd'hui, la Chine c'est 25% de la population mondiale. C'est moins de 10% du PIB mondial. La Chine est vouée à devenir la grande puissance de demain. Elle en a tous les atouts.
Je pense Christian. Que Trump a deux objectifs, celui qu'Emmanuel vient de décrire, et un autre qui est de tuer toute forme de règlement des conflits dans le commerce international. Demain, vous savez, Trump, il a renégocié l'accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique. Avec le Mexique, c'est fait. Avec le Canada, la deadline, c'était demain dimanche. Et pourquoi ils n'arrivent pas à se mettre d'accord? Parce que les Canadiens veulent préserver un tribunal d'arbitrage entre s'il y a des problèmes entre les États-Unis et le Canada. Et Trump n'en veut pas. Par ailleurs, il y a un organe de règlement des différends à l'Organisation mondiale du commerce. Ça permet, quand on a des différends, d'aller voir cet organe en disant bon, on n'arrive pas à se mettre d'accord, il faut des juges pour trancher. Il y a plus de juges.
Non, Trump ne veut plus les renouveler.
Donc il est en train de faire exploser l'Organisation mondiale du commerce, qui d'ailleurs n'avait pas besoin de Trump, elle avait déjà explosé toute seule. Pour autant, le multilatéralisme n'est pas mort. Le Fonds monétaire international va donner de l'argent à l'Argentine, la Banque mondiale va donner des prêts aux pays en voie de développement, la Banque des règlements internationaux continue à réguler les banques mondiales. Même avec Trump, le multilatéralisme n'est pas mort aujourd'hui.
En 30 secondes, est-ce que vous êtes capable de me dire si nous, Européens, devons être angoissés par ce qui se passe, Emmanuel?
Il faut être angoissé par ce qui se passe dans la mesure où on est totalement absent de cette espèce de grand duel qui s'annonce entre cette guerre totale, en fait, qui s'annonce entre les États-Unis et la Chine, et dont, encore une fois, la Chine a tout pour sortir gagnant. Quand vous voyez la vision à long terme qu'elle a, quand vous voyez l'épargne qu'elle a par rapport aux États-Unis, qui sont le pays quand même le plus endetté du monde vis-à-vis du reste du monde, quand on voit ses élites, quand on voit qu'elle détient 80% des métaux rares qui font les nouvelles technologies de demain, moi je vois pas comment les États-Unis, qui sont ancrés dans le présent, peuvent résister à la Chine, qui a une vision très claire de son futur.
Alors, Trump, l'impact Trump, ce matin, je vous emmène voir ailleurs comment ça se passe, par exemple à Gaza.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd, sur France Inter.
Bonjour Étienne Monin.
Bonjour Alexandra.
Gaza, bande de territoire de 41 km de long entre Égypte et Israël. Quelle est la situation économique là-bas? Elle était médiocre, elle est devenue catastrophique, n'est-ce pas Étienne? À lire le tout dernier rapport de la Banque mondiale, c'est le bord du précipice désormais, et c'est en partie à cause des décisions du président américain.
Oui, là, ça part. C'est un facteur aggravant qui crée aujourd'hui un risque d'effondrement d'après le rapport de la Banque mondiale. Si on prend les choses dans l'ordre, l'économie à Gaza souffre avant tout du blocus imposé il y a plus de 10 ans par les Israéliens après la prise de pouvoir du Hamas. Il y a eu 3 guerres pendant cette décennie. Les capacités de l'outil de production ont été divisées par 2. L'enclave est devenue dépendante des emplois publics qui, eux, ont été gonflés par 3 et du soutien international et du recours au crédit. Or, ces 2 piliers s'effondrent. Ça s'est fortement accentué cette année. D'abord, les emplois publics ne sont plus financés intégralement. C'est un conflit politique. Depuis 1 an, le président palestinien ne verse qu'une partie des salaires. Il veut faire pression sur le Hamas. L'enclave manque donc de cash. Les commerçants ne vendent plus. Un quart de la population s'est brutalement appauvrie. Ensuite, le président américain décide presque au même moment de couper des financements directs, 43 millions d'euros. Il supprime aussi sa participation à l'agence de l'ONU pour les réfugiés. Or, Gaza, c'est l'île des réfugiés. L'agence de l'ONU est le deuxième employeur dans l'enclave. 13 000 emplois, 130 ont déjà été supprimés. Si l'agence tombe dans ce contexte, Gaza risque de tomber avec.
Étienne, quelle réalité pour les Palestiniens qui vivent à Gaza? Ça ressemble à quoi, une économie moribonde?
Bah, ça veut dire que dans la rue, vous voyez des gens un peu comme à Cuba, tiens, qui sont assis sur des chaises en plastique, sur les trottoirs, devant les magasins. Il n'y a rien à faire. Les jeunes sont diplômés, mais ils n'ont pas de travail. Pour eux, le taux de chômage, c'est 70%. Une personne sur deux à Gaza est sans emploi au total, et une personne sur deux à Gaza vit sous le seuil de pauvreté. De plus en plus, on croise des jeunes qui disent maintenant vouloir quitter l'enclave. 17 000 personnes n'ont pas remis les pieds à Gaza depuis le 1er janvier dernier. Un appel d'air est en train d'exister avec la réouverture de la frontière avec l'Égypte qui s'est rouverte au printemps dernier.
J'hésite à vous poser la question, mais quand même, est-ce qu'il y a des pistes pour récupérer un peu d'air ?
En théorie, oui. En pratique, non. La Banque mondiale plaide, entre autres, pour une stabilité institutionnelle. Mais les divisions politiques en Palestine sont de plus en plus profondes. Cet été a été catastrophique. On entre donc dans une zone inconnue, sans ressort économique, sans matière à espérer. D'après la Banque mondiale, la situation se dégrade rapidement et ça devrait continuer.
Étienne Monin, merci à vous depuis Gaza. Merci également aux débatteurs Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chypre, deux amoureux des voitures. Restez avec nous, nous allons parler automobile dans quelques jours, jeudi prochain, le Mondial de l'Auto à Paris. Tout de suite, on sort du studio, on va dans les usines et les concessions où les voitures diesel ne font plus rêver.
Votre carte bleue, c'est une Visa, une
Visa.
Visa, nickel.
Hop. Là, vous vous occupez de madame,
oui.
Donc cliente ici à Aramis Auto.
C'est ça.
Pour la reprise d'un véhicule?
Alors non, c'est pas pour la reprise d'un véhicule, c'est pour un projet d'acquisition de véhicule en LOA, location avec option d'achat.
On a une voiture, on la paye tous les mois, on s'occupe plus de rien. Dans 3 ans, je la ramène, j'en prends une autre et j'ai plus de soucis à me faire pour la voiture.
Cette voiture que vous allez prendre en LOA, c'est quel modèle? C'est diesel?
Non, une essence, une Audi.
Pourquoi essence?
Q3. Pour essence, parce qu'on a entendu des mauvais projets pour le diesel sur Paris essentiellement, et ça nous gêne un peu. Alors je ne sais pas si ça sera effectif.
L'interdiction du diesel à Paris.
Voilà, tout à fait.
Vous êtes parisienne?
Pas parisienne, Maison Alfort, c'est tout près, et on est très souvent à Paris. Donc ça risque d'être chaud. Et on ne veut pas se priver du théâtre, du cinéma, des sorties. Jusqu'à présent, moi j'avais une Saab diesel, et j'en étais extrêmement contente. Je l'ai gardée 10 ans, donc sans problème. Mais si à l'avenir on a ce souci, investir dans une voiture pour
pas rouler avec.
Pas rouler avec, ça fait un peu désordre. Hein. Je sais bien qu'Uber est pratique, mais quand même. Hein.
Il y a quoi, 5 ans à peine, en France, acheter une voiture, c'était particulier parce que l'équation était la même pour tout le monde, qu'on habite en ville ou à la campagne, qu'on aille au travail tous les jours ou au théâtre de temps en temps, qu'on soit une entreprise ou un particulier. Finalement, un diesel, c'était quasiment une évidence. Et puis il y a eu le gazole de plus en plus cher, il y a eu Paris qui a annoncé l'interdiction pour 2024. Et enfin, en 2015, Volkswagen, la tricherie, le Dieselgate. Aujourd'hui, le diesel n'a plus la cote, toute la filière auto doit s'adapter, mais s'adapter à quoi exactement? Eh bien, la transition, elle est en cours, sous les yeux de notre reporter, Dila Tebi. On le retrouve au parking avec le spécialiste de la vente de voitures d'occasion.
Guillaume Paoli, cofondateur d'Aramis Auto.
En face de nous, il y a un gros camion, on entend le moteur, moteur diesel, et qui charge 8 voitures reprises des voitures diesel.
On reprend une majorité de voitures diesel, vu que les voitures d'occasion d'aujourd'hui, c'est les voitures neuves d'il y a 4-5 ans. Et il y a 4-5 ans, on vendait 70% de diesel. Pas juste Aramis, hein, mais tout le marché. La réalité, c'était qu'on est allé beaucoup trop loin dans le diesel, et maintenant, il y a le risque d'aller dans l'excès inverse. Les moteurs diesel restent pertinents pour les clients qui ont besoin de rouler beaucoup dans l'année, puisque les moteurs diesel, jusqu'à preuve du contraire, consomment quand même moins que les moteurs essence. On est à peu près à 40% de vente de moteurs diesel encore, justement pour ces gros rouleurs. Surtout que les véhicules diesel récents polluent quand même beaucoup, beaucoup moins que les véhicules diesel anciens et bénéficient de la prime de la conversion pour les véhicules diesel les plus récents.
Vous avez commandé une étude très récemment qui dit en substance qu'un tiers des Français se dit prêt à passer à l'électrique.
Alors 35% des Français affirment être prêts à passer au moteur électrique. Ce qui les retient pour l'instant, c'est premièrement les prix, puisque le prix, je rappelle, c'est le critère numéro un dans l'achat d'une voiture. Et plus secondairement également, le maillage des bornes de recharge et l'autonomie des voitures annoncées. Mais vraiment, le sujet numéro un, c'est bien le prix. Donc je ne crois pas au grand soir qui voudrait que du jour au lendemain, on passe complètement des moteurs thermiques aux moteurs électriques. Je pense plutôt qu'il y aura un mix énergétique et que progressivement, on arrivera à une part de l'électrique. Alors après, c'est un peu boule de cristal, disons de l'ordre de 15 à 20% dans une dizaine d'années.
Les constructeurs sont déjà dans la transition énergétique. On se rend à l'usine PSA Trémery, dans les Vosges. Depuis 40 ans, elle fabrique du diesel. C'est la plus grande usine de France, la troisième du monde.
Bienvenue sur le site de Trémery.
Vous êtes
Sophie Mariel, directrice de la communication du pôle Trémery-Metz. On a été pendant longtemps la première usine de production de moteurs diesel au monde. À partir de 2013, on a accueilli un premier moteur essence. Ça a été le début de la transformation pour le site de Trémery.
Ici, vous êtes combien de salariés ?
Il y a 2800 salariés sur le site de Trémery. Pour produire l'année dernière quasiment 2 millions de moteurs. 27% de moteurs essence. Cette année, en 2018, on en produira 31%. Et dès 2019, 37%. Donc petit à petit, on augmente la capacité de nos moteurs essence. C'est le cas à Trémery, mais c'est le cas dans d'autres usines du groupe, bien sûr.
L'éventuelle disparition du diesel, vous, ça vous fait pas peur ?
La disparition du diesel, ça ne doit pas nous faire peur. Ce qui est important, c'est qu'on accompagne l'évolution du marché et qu'on puisse répondre à la demande de nos clients. Là, pour l'instant, les clients nous demandent plus de moteurs essence. On se met en ordre de marche pour faire plus de moteurs essence. Quand ils seront prêts à acheter plus de moteurs électriques, on aura nos lignes de moteurs électriques qui seront prêtes pour pouvoir leur fournir ces moteurs.
Alors là, Sophie Mariel, on est dans l'usine, et là c'est la partie production de diesel. Là on a des machines immenses, de longues allées. Alors cette chaîne de diesel, est-ce qu'elle peut être amenée à disparaître ?
On n'imagine pas qu'elle disparaisse. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'adapter notre production pour répondre aux besoins des clients. Il n'y a pas de licenciement prévu. L'objectif, c'est de faire basculer les salariés du moteur diesel vers le moteur essence. C'est ce qu'on a fait, et maintenant du moteur essence vers les moteurs électriques.
David Kennel, responsable de la ligne de production des moteurs essence et électriques.
Alors là, on est plein dans l'usine. Là.
On a devant vous la surface qui est dédiée à la machine électrique.
Il y a combien de mètres carrés là ?
Écoutez, pour moi, l'empreinte de la machine électrique demain, c'est 1500 mètres carrés.
Donc on a 1500 mètres carrés face à nous, c'est vide, il n'y a rien.
Cet été, on a démantelé l'atelier d'usinage culasse diesel d'une ancienne génération. La surface est prête à recevoir d'ici maintenant 4-5 semaines le process de la machine électrique. Premier moteur tout début d'année 2019 pour un démarrage série pleine cadence à partir de juin et un démarrage sur véhicule à partir de septembre.
Ombre au tableau de bord, la question de l'emploi. Une voiture électrique nécessite moins de main-d'œuvre qu'une voiture thermique. Selon une étude commandée par l'Association des constructeurs européens d'automobiles, les fournisseurs pourraient perdre 38% de leur production de pièces, les constructeurs, eux, 17%. Les syndicats sont inquiets. Nous allons voir la concurrence Renault qui a pris de l'avance dans l'électrique. Bruno Azière, du syndicat CFE-CGC.
C'est un changement de modèle, fort pour notre industrie. Les salariés nous questionnent beaucoup, on sent l'inquiétude, elle est là. C'est est-ce que j'aurai encore mon emploi dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, compte tenu du fait que on a moins de moteurs à fabriquer et que la reconversion, elle est toujours difficilement abordable pour une majorité parce que on maîtrise ce que l'on fait et quand il faut changer d'activité, changer de métier, ça fait peur aux gens, donc c'est difficile. Moi, je ne vois pas aujourd'hui d'inversion de tendance possible. On a des réglementations qui, de toute façon, de plus en plus rendent contraignantes le développement de moteurs thermiques et particulièrement de moteurs diesel. On était quand même une particularité, l'Europe de l'Ouest, on va dire la France plus particulièrement, dans le monde de l'automobile, la dieselisation est quand même assez rare. Il y a l'Europe de l'Ouest et la Corée, tout le reste du monde quasiment tournait que sur des moteurs essence. Le développement de l'hybride ou de l'électrification, comme on aime l'appeler chez Renault, il est probable que c'est plutôt de l'électrification avec des moteurs essence que de l'électrification avec des moteurs diesel. Ça va devenir très compliqué d'inverser la tendance aujourd'hui.
Est-ce que vous avez quand même des données qui vous permettent d'y croire, d'avoir de l'espoir ?
Là, il y a eu des investissements chez Renault pour faire de la plateforme française une plateforme orientée électrique avec de lourds investissements, hein, plus d'1 milliard d'euros qui vont être engagés par l'entreprise. Donc ça, c'est là-dessus qu'on veut croire, c'est dire que l'entreprise se met les moyens d'accompagner sa mutation, elle, en termes de technologie et de produits pour ses clients, mais en même temps en accompagnant ses propres salariés.
La fin du diesel, Flavien Neuville de l'Observatoire CTLM de l'automobile n'en est pas si certain. Pour lui, tout dépend des normes et de la fiscalité, et donc des pouvoirs publics.
Les automobilistes achetaient du diesel parce que malgré ce surcoût à l'achat et à l'entretien, ils gagnaient sur la consommation de carburant, et en plus le carburant était moins cher. Donc économiquement, à partir de 20 000 km par an, vous étiez sûr d'amortir un diesel. À partir du moment où les prix de l'essence et du diesel vont être identiques, ce sera plus 20 000 km par an qu'il faudra faire, mais peut-être 30 000. Or, la majorité des Français font beaucoup moins que 15 000 km par an. Donc ça deviendra économiquement quasiment impossible d'amortir le surcoût à l'achat d'un véhicule diesel.
Donc ça veut dire que la tendance de fond, c'est quoi? C'est la disparition du diesel?
C'est très difficile de répondre à cette question pour une raison simple, c'est que les politiques publiques concernant la mobilité automobile n'arrêtent pas de changer. Il y a 10 ans, il fallait acheter du diesel. Les pouvoirs publics ont dit, on va donner de l'argent aux Français pour qu'ils achètent du diesel, on demande aux constructeurs de produire du diesel, et 10 ans après, on dit, ah non, il faut plus de diesel. Rien ne dit que dans 10 ans, on se rendra pas compte, peut-être que le diesel a fait d'énormes progrès en matière de dépollution, et peut-être que le diesel reviendra à la mode. Alors aujourd'hui, le débat est pratiquement insoluble. Ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir que le Dieselgate a rendu la discussion impossible. Plus personne n'ose prendre la parole sur le diesel pour expliquer ses avantages, ses inconvénients aussi, ils sont réels. Mais aujourd'hui, le débat ne peut plus avancer à cause de ça. On pousse beaucoup le 100% électrique. Simplement, il faut aussi rappeler que la voiture électrique, elle n'est pas parfaite d'un point de vue environnemental. Donc voilà, on est dans cette situation un peu étrange au moment même où il y a d'autres défis à relever. La voiture autonome, c'est un défi majeur. Et vous avez des géants de l'Internet qui s'intéressent à la voiture autonome. Donc les industriels ont des défis technologique majeure à relever et ils ont du mal à savoir ce vers quoi il faut aller en matière de motorisation parce qu'encore une fois, les choses peuvent varier du tout au tout en l'espace de 10 ans, ce qui est très court terme en réalité à l'échelle de l'industrie automobile et donc tout le monde est un petit peu perdu aujourd'hui.
L'avenir du diesel est-il certain? C'était le reportage de Dilatébi.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10,
à 200 mètres,
on n'arrête pas l'écho.
Prenez la deuxième sortie.
Alexandra Ben Saïd.
Et nous l'avons prise, la sortie. Elle nous a mené au siège du groupe PSA, Peugeot, Citroën, DS et désormais, il y a aussi dans la famille, Opel et Vauxhall. Le groupe est désormais en grande forme. Presque 2 milliards de bénéfices en 2017. Comme pour tous les constructeurs, vous l'avez entendu, il y a de grands défis à venir. Eh bien, voici l'entretien enregistré avec le président du directoire du groupe PSA. Bonjour Carlos Tavares.
Bonjour.
Carlos Tavares, on vient de l'entendre dans le reportage, quelqu'un qui dit les constructeurs, le diesel, l'essence, l'électrique, ils sont un peu perdus. Est-ce que vous, vous êtes un peu perdu?
Pas du tout, pas du tout. Je ne crois pas que nous soyons perdus parce que nous avons compris de la part du législateur une instruction très claire. Les gouvernements ont pris la décision scientifique de demander aux constructeurs automobiles d'aller vers l'électrique. Eh bien, cette instruction, elle est très claire. Elle est visible dans les objectifs de CO2 qui nous sont imposés par l'Union européenne. Et ces objectifs de CO2 imposés par l'Union européenne ne sont atteignables que grâce à une technologie qui est celle du véhicule électrique. Donc je ne crois pas du tout que nous soyons perdus. Je pense que nous savons exactement où nous devons aller. C'est respecter les instructions qui nous sont données par le gouvernement. Elles vont être matérialisées par le vote du Parlement européen le 3 octobre sur les émissions de CO2 en 2030.
Ils vont durcir les normes, ils veulent durcir les normes. Carlos Tavares, ça veut dire qu'on reconnaît que la voiture peut avoir un impact négatif sur la santé publique. Est-ce qu'ils ont raison de durcir ces normes?
C'est tout à fait normal et souhaitable qu'elles soient durcies, ces normes-là. Il n'y a aucun espèce de débat sur ce thème. Il faut avancer vers la mobilité totalement propre. Il suffit par contre de ne pas se tromper sur ce qu'on appelle la mobilité propre. Mais ce qui fait débat aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle il faut transformer l'ensemble de l'industrie automobile en Europe, qui emploie 13 millions de personnes, pour atteindre des objectifs particulièrement sévères à l'horizon 2030. Mais ce n'est pas un problème pour PSA, puisque PSA a toute la technologie nécessaire. Nous lançons en ce moment la DS3 Crossback E-Tense, qui est un véhicule 100% électrique. Nous lançons notre technologie de véhicule hybride rechargeable pour nos véhicules haut de gamme.
On va y venir sur l'électrique, mais d'abord une dernière question sur le diesel et le Dieselgate. C'était il y a 3 ans, il y a eu un procès en Allemagne. En France, c'est plus lent, mais il y a eu une enquête qui concerne plusieurs constructeurs, dont PSA, le groupe PSA. Quelle leçon un constructeur doit tirer de ce Dieselgate?
D'abord, il faut observer qu'un seul constructeur, et il est allemand, a été jusqu'à présent accusé de tricher sur le respect des normes.
À ce jour.
À ce jour. Et j'entends bien que, pour ce qui nous concerne, on ne fasse pas partie de cette liste-là. L'impact, aujourd'hui, il est sur l'ensemble de l'industrie automobile mondiale. Et cet impact se comprend dans l'esprit des consommateurs, mais il ne faut pas tout amalgamer. Chacune de nos entreprises est pilotée de manière indépendante, avec une rigueur dans la gouvernance qui lui est propre, avec des valeurs d'entreprise qui lui sont propres. Et donc, je pense que la généralisation est abusive. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute que ce que nous appelons dans notre jargon d'entreprise la compliance, c'est-à-dire le respect strict
des règles
et des normes qui nous sont imposées par les sociétés dans lesquelles nous opérons, s'impose à nous. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, y compris lorsque ces règles sont édictées sur la base de jugements scientifiques qui pourraient prêter à débat.
Alors, on en arrive à l'électrique. Parce que ce que j'ai entendu depuis le début, c'est que vous me dites « c'est une décision scientifique », mais il me semble que cette science-là n'est pas assez établie. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire, Carlos Tavares ?
Ce que je veux dire, c'est que la mutation, cette mutation qui nous est proposée, est une mutation lourde de conséquences. Et parmi ces conséquences, il y en a une première que je veux partager avec nos auditeurs aujourd'hui, c'est que la mobilité propre, c'est comme la nourriture bio, c'est plus cher. Et donc il faut que tout le monde en soit conscient. Mais il faut comprendre la transition énergétique comme étant une vaste transition qui va largement au-delà de l'industrie automobile. Comment est-ce que nous produisons de l'énergie électrique propre ? Ça a de multiples implications sur le nucléaire, sur le renouvelable, sur le charbon, sur l'hydroélectrique. Tout ça, c'est en soi un sujet stratégique extrêmement lourd. On a vu les débats que ceci suscite dans notre pays et chez nos voisins allemands. Mmh. Il y a ensuite l'objet de mobilité en lui-même, pour lequel nous apportons une solution zéro émission, c'est effectivement le véhicule électrique. Il y a l'empreinte carbone de la fabrication des batteries. Il y a l'empreinte carbone du recyclage des batteries.
Et donc votre conclusion,
mon
à
conclusion,
vous,
c'est qu'aujourd'hui,
le patron de PSA,
c'est que cette approche stratégique est superficielle. Et donc il faut élargir cette réflexion et montrer à nos concitoyens que nous avons un pilotage stratégique de tout ça. Il n'appartient pas aux constructeurs automobiles, évidemment, d'aborder l'ensemble de ces volets.
Alors, il y a encore des freins pour l'électrique. C'est 1% du marché français. Je reviens aux consommateurs. Ça progresse assez peu. Carlos Tavares, quand la voiture électrique sera-t-elle au même prix que la thermique ? Le prix, c'est le premier frein. On parle de 2024. J'ai lu 2024.
D'abord, je veux faire observer à nos concitoyens que 40% de la valeur ajoutée de fabrication d'un véhicule électrique, ce sont les batteries. Que les batteries sont aujourd'hui un monopole asiatique, des Coréens, des Chinois et des Japonais. Donc il faut qu'ils en soient conscients.
Et pourquoi est-ce que vous ne vous mettez pas, tous ensemble, les constructeurs européens, à faire un Airbus de la batterie ? Ça, c'est ce que veut la Commission européenne. Ou bien, Bruno Le Maire dit, il faut faire quelque chose de franco-allemand. Pourquoi ne le faites-vous pas ?
Je vais résumer en disant il faut, bien sûr.
Il faut 20 milliards pour faire l'usine.
Eh bien, faisons-le. Nous sommes, nous, le groupe PSA, un ardent supporteur de cette démarche.
Laquelle ? Européenne, franco-allemande ?
De créer un champion européen de la batterie pour évidemment équilibrer la situation asiatique aujourd'hui est dominante. Mais vous voyez, là, on est en train de parler d'un enjeu de transfert d'activités industrielles vers l'Asie qui fait partie de la superficialité que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que cette question-là, de lancer un champion européen de la batterie, c'est il y a 10 ans qu'il fallait se la poser. C'est il y a 10 ans qu'il aurait fallu lancer ça. De la même manière, la question de l'infrastructure de charge des véhicules électriques, pour lequel aujourd'hui on ne voit pas suffisamment d'investissement de la part des États pour garantir
les bornes,
une densité minimale.
Il paraît qu'en France, on est pas mal.
Ben, on verra bien quand on arrivera à 2020 et à 2025.
Alors, la question sur le prix, s'il vous plaît, Carlos Tavares. Est-ce que 2024, ça peut être le moment où la voiture électrique vaut la même chose qu'une voiture thermique ?
Je ne crois pas. Je ne le crois pas du tout. Je pense que, de toute façon, les citoyens européens vont être confrontés à une situation simple. Nous avons vu il y a quelques jours le profit warning de BMW, qui n'est pas
avis sur les futurs résultats.
Sur la baisse des résultats financiers du groupe BMW. C'est pas un acteur faible de l'industrie automobile européenne, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une première alerte du fait que nous allons, nous, en tant que citoyens, être confrontés à une réalité simple. C'est soit nous acceptons de payer la mobilité propre plus cher, soit nous mettons l'industrie automobile européenne en difficulté, avec tous les impacts que ça peut avoir sur nos sociétés. Il faut appeler un chat un chat.
Carlos Tavares, sur l'emploi, on dit que fabriquer des voitures électriques, ça embauche moins de monde. Vous avez 58 000 salariés dans la division automobile en France. Est-ce que vous qui prenez le virage électrique en accélérant, est-ce que ça fait moins de monde dans les usines ?
Écoutez, ça
à l'horizon 5 ou 10 ans.
D'abord, ça dépend de la vitesse à laquelle le mix des ventes de véhicules électriques va augmenter. Les objectifs de 2030 que le Parlement européen va voter le 3 octobre, ils ne seront atteignables qu'au travers d'un mix de ventes de véhicules électriques donné. Plus ce mix sera important, plus il faudra transformer nos entreprises au pas de charge.
Mais donc, vous dites on accélère, mais on maintient le même nombre de salariés dans les usines ?
Eh bien écoutez, on verra. Ça dépendra par exemple de la question de savoir si nous allons fabriquer des batteries en Europe ou pas.
Et si vous ne le faites pas ?
Si on ne le fait pas, évidemment, il y aura moins d'activité, puisque je viens de vous dire que 40% de la valeur ajoutée d'une automobile, ce sont les batteries, d'une automobile électrique.
Carlos Tavares, votre regard sur le marché du travail français. Chez vous, dans l'usine de Vesoul, on revient sur les 35 heures. Vous faites de la rupture conventionnelle collective, on a les ordonnances travail. Là, dans le dernier projet de budget, on voit que le gouvernement veut encore baisser le coût du travail. Et tout ça pour lutter contre la précarité, faire baisser le chômage. Est-ce que vous allez transformer des intérimaires en CDI ?
C'est une possibilité qu'on n'écarte pas, puisque tous les ans, nous embauchons. Et d'ailleurs, au risque de vous surprendre et de surprendre nos auditeurs, non seulement nous embauchons, mais nous avons des difficultés à embaucher. Nous avons mis en place de nouvelles équipes de fabrication dans nos usines pour faire face au succès commercial de nos modèles, qui se répètent de modèle en modèle, et nous avons vu que dans certains cas, nous n'arrivions pas à embaucher les personnes dont nous avions besoin dans nos usines françaises.
Mais vous voyez, moi je me demande, nous demandons, si ces efforts du gouvernement, ces milliards également dépensés dans une optique de pro-business, est-ce que ça a un impact sur l'emploi chez vous ?
Si vous me permettez, je voudrais faire une petite correction de sémantique. Je ne pense pas que ce soit des mesures pro-business. Je pense que ce sont des mesures pro-société. Ce sont des mesures...
Si vous ne les transformez pas en CDI, ce ne sont pas encore des mesures pro-société.
Je me permets à nouvelle fois de contester ce propos en vous disant la chose suivante. Quand vous avez un euro en main et que vous avez chez le marchand, peu importe de savoir si l'euro y vient d'un CDI ou d'un CDD, vous avez un euro en main et vous allez acheter ce que vous avez envie d'acheter chez le marchand. Et donc, je pense que ce qui est notre responsabilité, nous, patrons d'entreprise, c'est de créer de la richesse. Depuis 5 ans, le groupe PSA a apporté à ce pays un surcroît de richesse conséquent avec une balance du commerce largement excédentaire. Et donc, nous avons apporté notre contribution.
Mais si vous ne me répondez pas sur la précarité, là-dessus, en effet, création de richesse, c'est certain. Mais sur la précarité...
Eh bien, nous avons évidemment une société et du gouvernement pour ça. Vous ne pouvez pas demander au groupe PSA de se préoccuper de la question de la répartition de la richesse dans notre pays. Ce n'est pas notre mission. C'est la mission du gouvernement.
Allez, 3 questions d'actualité. Question internationale. Donald Trump, sa politique. Le constructeur Ford dit que ça lui a déjà coûté 1 milliard de dollars. Qui a le plus à perdre ? Les constructeurs américains ou européens ?
Dans tous les cas, l'humanité a à perdre du fractionnement du commerce planétaire. Il est évident que nous sommes peu exposés, nous, PSA, puisque actuellement nous avons une activité aux États-Unis qui est tout à fait marginale. Et il est évident que tous ceux qui exportent de grandes quantités de véhicules de l'Europe vers les États-Unis ont beaucoup à perdre. Ce n'est pas notre cas, donc nous ne sommes pas impactés. Mais de manière générale, rentrer dans une problématique de commerce mondial où il y a un qui gagne et un autre qui perd, ça conduit toujours à une situation de création de richesse qui est inférieure à celle où tous les deux peuvent gagner. Et donc, je pense que cette direction-là n'est pas bonne pour l'humanité.
Google, accord majeur signé entre Google et Nissan, Mitsubishi, Renault. Est-ce que vous aussi, vous allez faire entrer Google dans vos voitures ? C'est la voiture connectée, c'est la voiture autonome, c'est la voiture de demain.
Nous avons une stratégie dans ce domaine qui est non seulement arrêtée, mais en cours d'exécution avec un partenaire qui s'appelle Huawei.
Chinois.
Et donc, nous sommes déjà lancés dans cette voie-là. Et ces décisions auxquelles vous faites allusion qui ont été prises la semaine dernière, nous les avons prises déjà il y a plusieurs années. Je m'étonne simplement que nos concurrents prennent ces décisions maintenant.
Toute dernière question. Autolib, vos concurrents-là, ils sont dans les starting blocks. PSA ?
Aussi.
Quand ? À Paris ?
Septembre. Au Mondial de l'automobile, vous allez voir démarrer l'activité du groupe PSA au travers de notre marque de services de mobilité qui s'appelle Free to Move. Et qui est positionné au même niveau que les marques Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall.
Carlos Tavares, le président du directoire du groupe PSA, merci d'avoir été sur France Inter.
Merci à vous.
Ma vie au boulot. Sandrine Foulon, Simon est ingénieur. Il réagit aux propos du Premier ministre, c'était avant-hier sur France 2.
Édouard Philippe s'est dit favorable à la dégressivité des allocations chômage pour les cadres. Les plus qualifiés doivent-ils toucher moins d'indemnités parce qu'ils retrouvent plus facilement du boulot?
Oui, alors Simon, ce n'est pas un scoop. À chaque fois que les partenaires sociaux s'apprêtent à négocier une nouvelle convention d'assurance chômage, l'idée de verser moins d'allocations aux cadres revient sur le tapis. Il y a deux façons de faire. Soit vous décidez qu'au bout de 6 mois, leur indemnisation commence à baisser, alors qu'aujourd'hui c'est le même montant pendant 2 ans pour les moins de 53 ans. Soit vous baissez le plafond de ces allocations. Il en existe déjà un qui est de plus de 6 600 € net par mois. C'est beaucoup, c'est le seuil maximal le plus élevé en Europe. Mais dans les faits, 1 millier de personnes perçoivent cette somme sur 2,7 millions de chômeurs indemnisés. Il n'y a que 5% des allocataires qui touchent plus de 1 800 € net par mois. Est-ce trop? Peut-être. Est-ce que ça coule les finances de l'assurance chômage? Non, le régime est excédentaire. Et les cadres y contribuent largement. Jusqu'à présent, ils ont beaucoup cotisé en fonction de leur salaire. Or, les plus qualifiés sont peu au chômage et ils y restent moins longtemps que les autres catégories. Cette dégressivité ne ferait pas entrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'UNEDIC.
Voilà qui est clair. Alors Sandrine, pourquoi le sujet revient-il toujours sur le tapis et est-ce que cette fois-ci, la dégressivité a une chance de passer?
Le Premier ministre a dit dans certains cas, pour ceux qui ont une très forte employabilité, qui ont des salaires très élevés, tout ça reste vague. D'ailleurs, comment être sûr qu'une ou qu'un salarié, même qualifié, retrouvera vite un boulot, surtout après 50 ans. Cibler cette catégorie, c'est aussi laisser entendre qu'au fond, ces diplômés utiliseraient leurs indemnités pour bronzer aux Bahamas. Les syndicats de salariés qui vont négocier ont toujours été contre la dégressivité. D'abord parce qu'elle n'incite pas les chômeurs à retrouver plus vite un boulot. Là-dessus, l'expérience et les études convergent. Mais aussi parce que ce serait rompre avec la logique de l'assurance face à la perte d'emploi. Simon, vous cotisez, vous êtes indemnisé selon les mêmes règles. Le problème, c'est que les salariés ne payent plus leur part de cotisation chômage et même plus du tout dans 2 jours. Il n'y a plus que l'employeur qui paye. L'assurance chômage a été amputée d'une jambe. Et à terme, ce qui pourrait se profiler, c'est une allocation forfaitaire sans lien avec l'ancien salaire, une allocation financée par l'impôt dont le montant serait fixe pour tout le monde, qu'on soit cadre ou pas cadre.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.